Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bosuma à la une. Inauguration hier à Kipushi par le président de la République de l'usine de l'entreprise minière Kipushi Corporation, Kiko. Elle renaît après plus de 30 ans d'arrêt. Kiko se fixe comme objectif de produire annuellement 100 000 à 140 000 tonnes de zinc de haute teneur sous forme de concentrés. Nouvelle attaque des rebelles EDF hier contre une position des FARDC à Bango, au nord-est de Beniville. L'armée confirme l'attaque et ne fournit non plus de bilan pour l'instant, mais selon des sources locales, la circulation a été perturbée sur la route reliant le Nord Kivu à l'Ituri. Et puis, l'invité de ce midi, Paul Gaspard Ngondankoy, député national et professeur des droits constitutionnels. Il revient sur les recommandations des participants à l'atelier tenu ce week-end à Kisantu au Congo central à l'intention des acteurs politiques de la majorité et de l'opposition. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Haut-Katanga. Le président de la République a inauguré hier à Kipushi l'usine de l'entreprise minière Kiko, entendez Kipushi Corporation. Elle est une joint venture entre la GKMine et Ivanhoe Mine. Cette usine renaît après une trentaine d'années d'inactivité. Elle produit le zinc de haute teneur à l'état brut. Kiko s'est fixe comme objectif de produire annuellement entre 100 000 et 140 000 tonnes sous forme des concentrés. Pour le ministre congolais des mines, la production de zinc entre dans le cadre de la diversification de la production minière. On écoute le ministre Kizito Pakapomba au micro de Jean Gandou.
La mine de Kipushi, connue pour son gisement de zinc de classe mondiale, représente une opportunité unique d'augmenter nos recettes d'exportation et de renforcer la position de la République démocratique du Congo comme acteur stratégique sur le marché mondial des minerais. La réouverture de cette usine, après des années d'arrêt, témoigne de la résilience et de la confiance retrouvée de nos partenaires privés et publics dans l'environnement économique et juridique de notre pays. Je tiens à saluer la collaboration entre Kipushi Corporation, Kiko, Ivanhoe Mines et GKMine SA, qui a permis de mobiliser les investissements nécessaires pour moderniser les infrastructures minières et garantir des opérations conformes aux standards internationaux. Cette relance s'inscrit également dans le cadre de la politique de diversification de notre production minière, d'une part, et dans l'amélioration du climat des affaires, d'autre part. Alors que le Grand Katanga est mondialement connu pour son cobalt et son cuivre, et depuis peu, après le germanium, Kipushi nous offre l'opportunité d'exploiter un autre minerai stratégique, le zinc, tout en respectant les principes de durabilité et de responsabilité environnementale.
Du côté du Kasaï oriental, le gouverneur de province a lancé vendredi dernier l'opération d'enregistrement des nouvelles entreprises dans le cadre du projet Transforme. Le responsable provincial de Transforme indique que l'objectif de ce projet est d'identifier et d'enregistrer 30 000 nouvelles entreprises, surtout celles créées par les femmes micro-entrepreneurs. Explication Blaise Makassinandes.
Les entreprises attendues à cette première phase sont celles qui œuvrent dans les secteurs comme l'industrie légère, l'agro-transformation, le service à valeur ajoutée, l'économie légère et l'entrepreneuriat social. D'après le responsable provincial du projet Transforme, l'objectif de ces projets est d'identifier et d'enregistrer 30 000 nouvelles entreprises dans 13 villes réparties dans 7 provinces de la République démocratique du Congo. Nous citons Kinshasa, Congo central, Nord et Sud Kivu, Kasaï oriental, Kasaï central et l'Ituri. Parmi ces entreprises créées de 3 mois à 3 ans, 12 000 entreprises éligibles seront sélectionnées pour participer au concours de plan d'affaires COPA et 2500 d'entre elles pourront être retenues pour bénéficier d'un financement. Le gouverneur Jean-Paul Mbwemba Kapo a encouragé les femmes et les jeunes filles à participer activement au processus afin de tirer pleinement profit des opportunités offertes par ce programme. Signalons que ces entreprises ont 3 mois pour régulariser leur dossier et se faire enregistrer dans le cadre de ces projets.
Par ailleurs, au Kasaï central, le gouverneur de province a inspecté ce week-end les travaux sur les tronçons Kananga-Kamwisha et Kananga-Kalambambouji. Sur la première ligne, Moïse Kamboulou a constaté avec satisfaction le début de la pose de la dernière couche de bitume à la hauteur de Benamandé par l'entreprise arabe Contractor. François Kadima nous en dit plus.
Kananga Kamosha et Kananga Kalamambuji sont deux voies importantes pour atteindre Chikapa jusqu'à Kinshasa pour l'une et Angola pour l'autre. Le gouverneur de province a voulu se rendre compte de l'évolution des travaux sur les deux tronçons. À une dizaine de kilomètres de Kananga, dans le groupement de Benamandé, les ingénieurs arabes contracteurs qui exécutent les travaux pour Kananga Kamosha ont expliqué à l'autorité provinciale le processus de bitumage avec au moins 3 kilomètres qui ont reçu la dernière couche. Les travaux avancent vers le village Chachikumba. Les soucis est d'asphalter et arriver à relier Kananga Kamosha. Déjà la route est asphaltée par la même firme entre Kamosha et Chikapa. Satisfait de l'avancement des travaux, le gouverneur Kamboulou a également voulu s'imprégner des travaux sur le tronçon Kananga Kalamambuji. Il a visité la base vie de l'entreprise Sino Hydro dont la construction est finissante. Les soucis est de voir les travaux qui doivent être exécutés sur ce tronçon correspondre au premier décaissement de 40 millions de dollars américains, a-t-il expliqué aux exécutants. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Je vous le disais dans le sommaire, dans le territoire de Beni au Nord Kivu, une nouvelle attaque des rebelles ADF a été signalée hier dimanche contre une position militaire des FARDC à Bango, localité située à 25 km des Ringeti, au nord-est de Beniville. Des sources locales rapportent que la circulation a été perturbée sur cet axe routier reliant la province du Nord Kivu à celle de l'Ituri. L'armée confirme l'attaque mais n'est fournie aucun bilan pour l'instant. Marc Marofimbo.
Des sources locales indiquent que cela fait plus de 2 semaines que les rebelles ADF, poursuivis par les forces conjointes FRDC-PDF dans l'ouest de la route nationale numéro 4, tentent régulièrement de se déplacer vers l'est du territoire de Beni. Cette situation découle de la destruction de leurs bastions situés aux abords de la rivière Biena, à la frontière entre les territoires de Beni au Nord Kivu et de Mambasa en Ituri. Dimanche, ces rebelles ont attaqué une position militaire des FRDC à Bango, sur l'axe Eringeti-Kainama, à 25 km de la route nationale numéro 4. La circulation était perturbée sur cet axe routier jusqu'à Solondi. De nombreux véhicules de transport à commun et marchandises étaient encore stationnés au centre commercial des Ringeti. Contacté, les porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord, le colonel Makazukai confirme l'attaque sans fournir de bilan. Il a précisé que l'armée poursuit les rebelles qui se sont retranchés dans la forêt et que des opérations de ratissage sont en cours. Les forces congolaises et ougandaises exercent une pression militaire accrue sur les ADF à la frontière entre les territoires de Mambasa et de Beni. Ces rebelles tentent jusque-là sans succès de se replier vers l'est du territoire de Beni. Marc Marufimbo, Beni, Radio Kapi.
Restons au Nord Kivu. La cité de Sake, dans le territoire de Masisi, se réveille dans un calme précaire ce lundi. C'est après des échanges des tirs hier entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Des sources civiles et militaires indiquent que les rebelles du M23 ont tiré plusieurs balles en direction de Sake depuis 3 positions qu'ils occupent sur des montagnes surplombant la cité. C'était d'abord entre 12h et 13h locales et puis entre 17h50 et 18h50 heure locale, ce à quoi l'armée congolaise a répondu depuis Sake et Mubambiro. Aucun dégât côté civil n'est à déplorer, disent ses sources. Elle précise en revanche que toutes les troupes sont en alerte maximale du fait d'un renforcement des positions des rebelles M23 autour de Sake. Nous sommes toujours au Nord Kivu. Réfléchir aux stratégies de prévention et de rétablissement de la paix dans la région des Grands Lacs, c'est le but d'une enquête effectuée en juillet 2024, notamment dans l'est de la RDC par l'université Ekima University College du Kenya. Cette institution travaille depuis 5 ans sur la dynamique des conflits dans 5 pays des Grands Lacs, notamment la RDC. Celle-ci voudrait impliquer beaucoup plus les acteurs locaux tels que la société civile aux côtés des dirigeants afin d'arriver à des pistes de solutions pour la paix. C'est dans ce cadre que Ekima Université, avec son partenaire Organisation des Jeunes Chrétiens en Afrique pour le Développement, ont réuni à Goma ce week-end certaines organisations locales qui travaillent sur les conflits. Il était question de présenter aux acteurs locaux les résultats de cette enquête et de recueillir leurs suggestions. Le professeur Elias Opongo revient ici sur les résultats de cette enquête au micro de Sifa Maguro.
Donc l'idée était d'abord de réfléchir dans ces 5 ans, qu'est-ce qu'on a pu faire jusqu'à là, quels sont les défis et comment est-ce qu'on peut encore amener des stratégies différentes de ce qu'on a fait jusqu'à là. Aussi, dans cette réflexion, on a remarqué que on a la capacité d'amener ces changements. Le problème, c'est de se lier avec d'autres réseaux qui ont même des contacts directs avec ceux qui sont beaucoup plus responsables de ces conflits dans la région, bien même ici au Congo. Ces agents de justice et paix ont remarqué le fait qu'ils aimeraient quand même que les citoyens soient beaucoup plus engagés sur les questions de discussion sur les conflits au Congo, et pour trouver les résolutions et aussi pour même évaluer les accords qu'on a eu jusqu'à là et pourquoi les choses n'ont pas marché jusqu'à là.
Entre autres recommandations, les acteurs de la société civile ont souhaité prendre part aux discussions afin de plaider efficacement pour la question de paix qui touche les populations. En Ituri, une accalmie s'observe depuis environ 3 mois sur toute l'étendue de la province. Selon la coordination de la société civile, la plupart des miliciens des différents groupes armés locaux ont développé des activités de résilience, soit l'exploitation de l'or, l'agriculture ou le cantonnage manuel, ce qui facilite la circulation des personnes et de leurs biens. La société civile demande au gouvernement de mettre en place des stratégies pour la récupération de toutes les armes illégales en vue de consolider cette paix. Isaac Remoyope.
Aucune attaque des groupes armés locaux n'est signalée ces 3 derniers mois dans les territoires d'Irumu, Djuguma, Guiemambassa, affirment des sources concordantes. La société civile de l'Ituri attribue cela aux divers dialogues communautaires qui ont abouti à des actes d'engagement de cessation des hostilités. Ces accords sont le fruit des efforts du gouvernement, de la MONUSCO, des leaders communautaires, des structures citoyennes et surtout la prise de conscience des miliciens. Ces derniers ont développé des activités de résilience comme l'agriculture, l'exploitation de l'or, le cantonnage manuel, comme le témoignent les coordonnateurs intérimaire des PDD RCS Anitori, Flori Kitoko.
Les gens préfèrent rester chez eux. Ils ont des armes, mais ils sont chez eux. Ils sont des agriculteurs, ils sont des éleveurs. Ils vont voir les bêtes brouter. Les soirs, les bêtes rentrent, mais il a une arme.
La société civile d'Anitori demande au gouvernement de mettre tout en œuvre pour récupérer les armes détenues illégalement par ces miliciens pour construire une paix durable. Son coordonnateur Dieudonné Lossa.
Du côté des groupes armés, il y a eu un effort. C'est une des conscience, ça peut être le débit. Si on arrivait à obtenir un désarmement, en tout cas, ça pouvait être mieux.
Il signale toutefois quelques cas isolés d'exactions commises par ces miliciens, notamment sur les routes nationales et provinciales. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Rendons-nous dans le territoire de Lubao, province de Lomami. Près de 500 personnes vivent en brousse dans les conditions inhumaines, apprend-on. Elles habitent dans les localités de Lubenga et Cathédrale, dans le groupement de Kembe Kakashi, plus ou moins 130 km de Cabinda. C'est après les affrontements qui les ont opposés la semaine dernière à leurs voisins de la localité de Kalindakani, dans le groupement de Kembe Kalume. Les sources sur place parlent d'un vieux conflit foncier qui serait à la base de ces troubles. Le ministre provincial de l'Intérieur ainsi que l'administrateur de Lubao sont restés injoignables. Direction la province de la Tchopo. La clinique des anges a débuté ce week-end la campagne de consultation gynécologique gratuite. Cette campagne va durer 15 jours selon le docteur Antoine Modia, responsable de ce centre hospitalier spécialisé pour des maladies gynécologiques. Au-delà des consultations ordinaires, cette 9e édition offre une solution aux personnes qui souffrent psychologiquement. Reportage de Jacques Moukonkolé.
Les femmes qui souffrent de maladies gynécologiques ou celles qui aimeraient être informées de leur état de santé prennent d'assaut la clinique des anges. Cette dame dit être venue en consultation pour la 2e fois sur recommandation de son médecin. Elle ne tarit pas d'éloge à l'endroit du docteur Antoine Modia.
Je suis revenue parce que on nous a conseillé chaque année de repasser pour les dépistages et je suis très heureuse d'y être là. Oui, c'est très gratuit.
Cette 9e édition des consultations gynécologiques est la meilleure des 8 éditions précédentes, déclare le docteur Antoine Modia, car, explique-t-il, elle offre une opportunité aux couples infertiles d'engendrer des enfants par des méthodes modernes.
L'insémination a toujours commencé, mais la technique supérieure, c'est ce qu'on appelle la fécondation in vitro ou l'injection. Ces techniques-là n'existaient pas parce que nous sommes la même famille et comme nous avons ces centres installés à Kinshasa, nous avons dit nous recrutons les dames et bien et le couple. Que ces couples se retrouvent à Kinshasa pour peu de temps et on peut peut-être trouver la solution pour eux.
Ce gynécologue précise que la prise en charge de l'infertilité a commencé depuis plus de 10 ans, mais qu'il était limité lorsqu'il atteignait le stade où les couples devaient bénéficier des techniques modernes de procréation. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale. Le parti au pouvoir au Sénégal a remporté une large victoire aux élections législatives anticipées d'hier dimanche, élections convoquées par le nouveau président Bassirou Diomaye Faye, a déclaré le porte-parole du gouvernement à l'issue du scrutin. Plus de 7 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour élire les 165 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale pour les 5 prochaines années. Les premiers résultats officiels provisoires seront annoncés demain mardi.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons Paul Gaspard Ngondankoy, député national et professeur des droits constitutionnels. Il revient sur quelques recommandations proposées par les participants de l'atelier organisé par le centre Carter Ambuela Lodge à Kisantu dans le Congo central du 15 au 17 novembre en cours, organisé à l'intention des acteurs politiques de la majorité et de l'opposition. Cette activité avait pour thème journée d'échange pour des réformes pertinentes et durables en RDC. Le député national Paul Gaspard Ngondankoy s'entretient avec Alain Rongmouchind.
Professeur Paul Gaspard Ngondankoy, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de participer à cet atelier organisé par le Centre Carter. Quelle est votre perception de cette activité?
Je remercie le Centre Carter d'avoir organisé cette activité. Je le remercie d'autant plus que c'est une activité qui permet à tout le monde de faire le bilan de ce qui s'est passé pendant les élections 2023, mais aussi parce que on s'y prend suffisamment à temps par rapport aux échéances futures. Il est important que les acteurs de ce processus puissent faire un bilan et essayer de dégager des recommandations nécessaires pour améliorer notre système électoral. Et en ce qui me concerne, les différentes recommandations qui ont été dégagées sont pertinentes. J'espère vraiment que les instances qui vont être saisies pour implémenter ces réformes vont les comprendre et vont pouvoir les mettre en œuvre de façon à pouvoir améliorer notre système électoral.
En parlant des réformes, vous particulièrement, vous avez par exemple dénoncé le pouvoir de l'argent. Et dans les recommandations, vous demandez que les gouverneurs et les sénateurs soient élus au suffrage direct. Qu'est-ce que ça pourrait apporter concrètement?
L'un des constats malheureux que j'ai fait sur le terrain, effectivement, c'est cette problématique-là de l'argent. Aussi bien en ce qui concerne les électeurs que les grands électeurs. Les électeurs à la base, aujourd'hui, ne sont plus motivés, à mon avis, par l'idéal de la construction d'un État démocratique ou l'idéal du développement du pays. C'est comme si la population est beaucoup plus mue par l'intérêt financier que par la nécessité de construire notre démocratie. Vous arrivez sur le terrain, vous avez les gens qui pratiquement demandent de l'argent pour pouvoir vous voter. On s'est compris même les enfants. Tu demandes aux candidats l'argent. Ne parlons pas des grands électeurs, c'est-à-dire au niveau des assemblées provinciales pour l'élection des gouverneurs et des sénateurs. C'est un cancer qui est dénoncé par tous, mais il faut que tous prennent la résolution de pouvoir y mettre fin. L'une des solutions, c'est que, comme je l'ai dit, pour ce qui concerne l'élection des sénateurs et des gouverneurs, demander au peuple lui-même d'élire les gouverneurs des provinces et les sénateurs. C'est vrai que le risque de corruption est toujours là, parce que notre population ayant déjà acquis cette mentalité d'argent, va continuer à le faire, mais le risque sera moins par rapport aux surenchères que nous voyons au niveau des assemblées provinciales.
On a constaté dans la salle au cours de l'atelier que tous les politiciens, que ce soit de la majorité ou de l'opposition, sont revenus sur l'homme, le Congolais qu'il faut moraliser. Finalement, ces recommandations qui sont très pertinentes, est-ce qu'elles seront vraiment appliquées lorsque vous, les politiciens, qui avez la charge de les mettre en pratique, allez les recevoir au niveau du Parlement?
Le problème fondamental se trouve à ce niveau-là. C'est la question de l'homme congolais. Mais comment réformer un système tant que l'homme lui-même n'est pas réformé? Vous savez, tout travail qui se fait sur l'homme, c'est un travail de longue haleine. Ça demande un processus d'éducation, un processus de sensibilisation. Il faut être patient. Nous n'avons que ce peuple-ci, et donc il faut travailler sur ce peuple pour l'éduquer. Il faut travailler aussi sur les acteurs politiques. Mais ça ne suffit pas, l'éducation. Il faut des sanctions. Parce que là où l'éducation peine à produire des résultats, il faut que la sanction vienne. On a proposé aussi des réformes du système électoral lui-même. Quand je parle du système électoral, je vois l'ensemble des mécanismes qui sont mis en place pour le déroulement des élections. L'une des propositions que l'on a faites, c'est que il faut que pour le cycle électoral de 2028, nous puissions sortir de ce système provisoire de l'enrôlement. Il faut qu'on organise les recensements et l'identification de la population pour que en 2028, on puisse d'abord découper les circonscriptions électorales et répartir les sièges au prorata du poids démographique de chaque circonscription, lequel poids démographique va être tiré du résultat du recensement et de l'identification de la population. Et ensuite, pour que nous puissions connaître effectivement le poids du corps électoral que nous avons. Parce qu'à partir du recensement et de l'identification de la population, la Commission électorale nationale indépendante n'aura plus l'obligation de procéder à des coûteuses opérations de renouvellement du fichier électoral, parce que le fichier électoral sera tiré directement du fichier général de la population. Ça va réduire le coût d'organisation des élections, ça va assainir le corps électoral, et là, on peut dire que notre démocratie peut être assise sur des bases saines.
Professeur Paul Gaspard Ngonanko, je vous remercie.
Merci beaucoup, Alain.
Voilà, c'est par ici que s'achève ce journal, coordonné par Élisée Chikotachivo et sous la supervision de Martin Sebujangwe, Jean-Claude Siala, Mwana Makengo Swalu, à la mise en onde. Merci d'avoir été des nôtres.